Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Merci d'être venu dans sa présence. Nous allons faire usage d'un organe que Dieu nous a donné, les oreilles, pour entendre sa parole. Parce qu'une meilleure écoute nous conduit à une bonne pratique de la piété. Je vous invite à la prière. Merci, cher Père, de nous donner encore de te découvrir dans ta parole, afin de t'obéir et mieux te servir dans la vérité et avec amour. Merci pour le gigantesque travail qu'accomplit le Saint-Esprit en nous. Il nous a scellés en tant qu'héritiers de la promesse. Il nous montre le chemin par lequel nous sommes appelés à marcher pour être dans ta volonté. Merci pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. Donne-nous de vivre désormais véritablement cette vie nouvelle, ta vie, et le pouvoir de le manifester dans ce monde pour la gloire de ton nom. Amen. Avant d'aller plus loin sur la suite des annonces, on reprend les études dans les groupes de quartier sur le livre des Éphésiens. Certains ont déjà reçu la version numérique, d'autres ne l'ont pas encore. Signalez-vous pour qu'on puisse vous le transmettre. Parce que le but de l'étude biblique n'est pas de découvrir sur le moment, science tenante. Elle consiste à travailler d'abord le sujet par des questions qui vous ont été posées. De manière à ce que, lorsqu'on se retrouve, on fait ce qu'on appelle une mise en commun. Et donc il faut avoir lu le livre avant, il faut avoir traité les sujets avant, et après, on se retrouve pour tirer davantage de bénéfices. Et ceci, vous avez eu des formulaires, la version écrite, compilée, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai amené 5 qui est sur la table de publication, contre 3 euros, équivalent au prix de la feuille et de l'encre. Mais si vous voulez en avoir plus, faites-vous savoir, comme ça on le saura. Nous vivons un monde plein de bruit. Ça, je ne vous l'apprends pas. Notre civilisation est enfouie dans des bruits de tout genre. Vous vous levez le matin, déjà, vous entendez les bruits de chantier. Vous vous levez le matin, vous entendez les bruits, le vrombissement de voitures. La nuit, quand vous dormez, quelqu'un de mal avisé va couper le pot d'échappement de sa voiture et dans votre sommeil, vous vous réveillez et vous avez de la peine à trouver le sommeil par la suite. Et votre esprit commence à divaguer. Ça, ce n'est que quelques-uns des bruits qui nous empêchent de vivre réellement. Mais il y a un autre bruit qui nous éloigne encore davantage du Seigneur. C'est la peur du silence. On a l'impression que le silence nous confronte à nous-mêmes. Et par peur de nous confronter à nous-mêmes, on essayait de meubler le silence par des bruits. Même dans la voiture. Mais je peux vous avouer que, en tant qu'enfant de Dieu, parmi ces 1001 bruits, si nous sommes nés de Dieu dans sa nature, nous pouvons être rendus aptes à décoder la voix de celui qui est notre berger. Et c'est ce à quoi il nous appelle à cet instant. Parce que le bruit prend le contrôle de nos cœurs et de nos vies. Et celui qui prend le contrôle de nos vies nous dirige. Par qui voudrions-nous, mes bien-aimés, être dirigés? Je connais la réponse. Mais souvent, est-ce que nous posons le pas ou l'attitude qu'il faut pour que lui nous dirige comme un bon berger? C'est l'objet de ce message. Elle va un peu toucher, rejoindre les besoins des uns des autres. Et que si cela peut répondre à votre besoin, nous aurons atteint notre but. Alors, je vous invite ce matin, une demi-heure de concentration, pour écouter ce message que Dieu veut nous parler. C'est par la parole que Dieu nous éduque, Et c'est par la parole que Dieu restaure toutes choses. On va lire quelques textes. Dans Romains chapitre 8, verset 1, on lira le verset 1 et le verset 5, 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et je souligne le terme « unis ». Verset 5. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit, grand E. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Croire en Jésus-Christ mort et ressuscité, affranchi du pouvoir du péché, et rend juste devant Dieu. Cette libération doit s'épanouir dans le comportement du croyant. Il est appelé à devenir ce que le Christ a fait de lui, car le risque de se laisser entraîner par sa faiblesse et de retomber dans le péché existe toujours, c'est-à-dire même en devenant chrétien. L'Esprit de Dieu vient au secours de la faiblesse humaine. Il aide à vivre comme des enfants de Dieu et non comme des esclaves. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit peut, à la suite de Jésus-Christ, appeler Dieu du nom de Père, nous l'avons chanté, Abba Père, d'où nécessité d'être attaché à lui par l'Esprit. Uni à Christ, attaché à lui par l'Esprit. L'autre verset suivant, qui figure dans les épîtres aux Éphésiens qui feront l'objet d'études cette année, le premier verset, plutôt le chapitre 1, le verset 3, 13 et 14. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Verset 13. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle, qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque, sceau, empreinte. Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Voilà l'autre rôle du Saint-Esprit, sceller, mettre un tampon. Quand on a l'Esprit du Seigneur, c'est comme un sceau que Dieu a mis sur nous. Je finis la phrase. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple et il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Alors, ça appelle un petit commentaire avant de lire le troisième. Paul invite ici les croyants à progresser dans la connaissance du projet de Dieu. Parce que c'est la raison de notre existence. C'est la raison de notre salut. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous extraire des difficultés de ce monde. Si nous le comprenons de cette manière, c'est que nous n'avons pas bien compris l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ n'est pas fait pour nous mettre de côté et pour que nous menions une vie aisée sans difficulté. Non. L'Évangile de Jésus est venu pour nous rattacher à Dieu, pour que tous ensemble, nous accomplissions le plan de Dieu. J'y reviendrai. Et pour cela, nous y découvrons là la sagesse de Dieu. Une espérance que Jésus nous a donnée, qui est la raison de le remercier. Et c'est ce que Paul entend de lui dire. Le verset suivant, qui est le dernier, celui-là, il est plus important. Mais celui qui s'unit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un. Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Alors, Paul utilise volontiers l'image du corps. Parce que dans ce verset qui vient d'être cité, il a fait allusion à une union sexuelle avec les prostituées. l'idolâtrie. Accepter Jésus dans la vérité et associer à Jésus une autre vérité ou une demi-vérité est aux yeux de Dieu est une idolâtrie et encore pire, c'est de l'adultère ou de la prostitution. C'est une dimension de la parole de Dieu sur laquelle on n'insiste pas beaucoup. On vit un monde où, pour faire nos courses et répondre à nos besoins, on prend ici un tout petit peu, on prend là un tout petit peu, on prend ici un tout petit peu, on met dans le panier. Et on s'aperçoit que dans la vie chrétienne, cette pratique, elle est courante dans nos vies. On prend une petite vérité d'un côté, on prend une vérité de la Bible de l'autre, on prend une vérité de l'autre et on fait un assemblage. Mais pourquoi ? Pour atteindre quel but ? C'est pour ça que Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Et ce sujet a été débattu pendant les vacances, en parlant du Saint-Esprit. Et nous voulons pousser encore le bouchon beaucoup plus loin, pour que nous puissions obéir pleinement à la volonté du Seigneur. Et ce texte vient à point nommé. Mais celui ou celle qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Ici, il est dit au Seigneur, parce que Jésus, c'est le nom humain qu'on a donné à Jésus. Quand on parle de Jésus, on voit l'homme avec ses limites. Mais ici, il est dit celui qui s'unit au Seigneur. Le mot Seigneur a été donné à Jésus quand Jésus est mort, ressuscité, et Dieu a fait de lui le Christ et le Seigneur. C'est là. Quelle est la puissance de la résurrection ? Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas être avec Jésus avant sa mort. Mais c'est être avec le Christ, c'est-à-dire Jésus mort, ressuscité, établi Seigneur. C'est là la position du chrétien. Et ça, ce n'est plus avec Jésus. C'est avec le Christ. Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un, une même personne avec lui. Paul utilise volontiers, comme je le disais tantôt, l'image du corps pour illustrer l'union du croyant au Christ. Or, dans la culture juive, le corps ne désigne pas seulement la partie visible extérieure de notre personne, mais la totalité de l'être humain avec ses caractéristiques physiques, intellectuelles et affectives. Tout cela doit être lié à Christ. Alors, de ce bas monde, nous n'avons rien à attendre pour combler nos besoins. Le cœur humain est trop profond pour que le monde puisse le combler. Tous les biens du monde ne peuvent pas combler un cœur. En tant qu'enfant de Dieu, je vous rappelle que nous sommes des passages comme des pèlerins. Et notre regard doit être pointé vers notre destination finale, la patrie du Père. C'est dire que ce bas monde qui est profondément blessé, ce bas monde profondément tordu par le péché, le monde n'est pas à mesure de fournir des réponses à l'être humain pour son salut éternel. Du monde ne viendra jamais notre consolation. Mais c'est de Christ auquel nous sommes désormais attachés que viendra notre salut et notre consolation. Voilà pour qu'il est dit, celui qui est uni au Christ a un seul esprit avec lui, c'est-à-dire celui qui est uni à Christ devient une seule personne avec lui. Dans certaines versions, celui qui est uni à Christ a un seul cœur avec lui. Alors, quels sont les bénéfices ? Quels sont les bénéfices pour le croyant d'un tel lien avec le Seigneur ? Alors, on va examiner quelques bénéfices. Mais pour mieux comprendre, il faut que nous repartions dans le texte de Jean sur lequel on a suffisamment commenté pendant les vacances, Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, au sujet du Saint-Esprit. Mais dans 15, Jésus a dit, « Car sans moi ou séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus le disait à ses disciples qui ont cette lourde charge de prendre le relais de son œuvre parce que lui, il va s'en aller Il va leur donner le mandat de continuer l'œuvre que lui, il a commencée et qui n'est pas terminée parce qu'il a été crucifié à 33 ans. Et le bout du monde n'a pas encore atteint par lui de l'Évangile. Et il a donné cette mission à ses disciples, comme nous aujourd'hui, de continuer l'œuvre. Et c'est à eux qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais qu'est-ce que Jésus veut vouloir dire là? Servir Dieu, c'est une chose. Souvent, nous avons envie de servir Dieu avec ce que nous voulons. Nous pensons que Dieu va aimer ce que nous faisons pour lui, en fonction de nos motivations humaines. Mais c'est sur les instructions de Dieu que nous pouvons le servir de manière correctement. On va poser la question autrement. Seigneur, je veux te servir. Deuxième question, comment te servir? Avec qui te servir? Parce que l'instant là, c'est melting pot, hein, du politiquement correct. On prend un évangélique, chrétien évangélique serré sur la parole, on se dit, il n'y a pas un problème, on peut être avec les libéraux, l'essentiel que nous soyons tous un. Faux. Faux. Jésus a dit que je suis venu sur la terre pour apporter l'épée, la division. Et dans le travail que Jésus est en train de faire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il va faire l'émondage. L'émonder signifie détacher ce qui n'est pas de Dieu pour nous rattacher à Dieu. L'émondage aussi consiste à des séparations. Dieu va créer au milieu de vous une séparation avec une relation toxique, des relations qui vous conduisent à ne pas obéir à Dieu, qui étouffe le souffle de l'esprit, qui nous empêche de prendre de la largeur. Bien sûr, cela commence par notre pensée. Nous détacher des pensées qui ne sont pas exactes. L'écart de vérité que le monde nous bassine tout le temps. Des demi-vérités, parfois. Et quand ce n'est pas une vérité qui engage Dieu, Dieu n'est pas engagé dans cette histoire. C'est la vérité qui arrête Dieu. C'est la vérité qui fait travailler Dieu. Et la vérité vient de sa parole. Quand la parole de Dieu est annoncée avec puissance, avec justice et avec justesse, Dieu est engagé. Et même dans nos prières sont tellement truffées d'émotions humaines que Dieu cherche en vain quel est le verset biblique sur lequel vous vous appuyez pour exprimer nos prières. Mais Dieu n'a rien à faire de nos émotions. Je vous avoue, brutalement comme ça. Quand Dieu veut nous aider, il cherche quelle est la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est le canal par lequel Dieu travaille. Voilà pourquoi le monde fait tout pour étouffer la puissance de cette parole. Parfois, on est attaché à Christ aujourd'hui, demain, on est de l'autre côté, demain, on est là avec lui, et on fait un accordéon, on joue. Aujourd'hui, il est proche, demain, il est loin. Aujourd'hui, il est proche, demain, il est loin. Non, on doit vivre. Je demeurerai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez ce que demeurer? C'est être dans la maison. C'est être avec constance. Voilà le sens de ce verset. Alors, souvenez-vous, je vous ai donné le nom d'une agence de location de voitures. Si vous oubliez tout ce que je vous dis, ben si vous pensez à ADA, hein, il y avait une agence, c'est disparu de la circulation, on ne voit plus ADA maintenant. Là. ADA, ça veut dire appartenir, dépendre et attacher. Lorsque nous acceptons Christ, nous appartenons à Dieu. On ne peut pas appartenir à deux choses à la fois. Il n'y a pas deux propriétaires. Non, ce n'est pas possible. En matière de salut. Ou c'est Jésus, ou c'est l'autre côté là-bas. Et quand on appartient à Christ, on dépend de lui. Oh, mes bien-aimés, dépendre de Christ, c'est la meilleure des choses. Les gens pensent que devenir chrétien, on se coupe de liberté. Faux. Devenir chrétien, c'est la plus grande liberté que le Créateur nous a donné de connaître. Il y a des gens qui sont libres, mais qui sont esclaves de leur liberté. Vous n'avez pas vu, là? Quand il est dit, il est interdit d'interdire, vous vous rendez compte que ceux qui ont dit ça, c'est eux qui sont les pires que tout. Et c'est de cela dont Dieu veut nous délivrer. Dépendre et être attaché à Christ, c'est le positionnement du croyant, en tout lieu et en tout temps. Être lié au Christ, c'est le positionnement du chrétien en tout lieu et en tout temps. Autrement dit, Christ est en moi, je suis avec le Christ et je suis en Christ. Vous voyez le positionnement? Christ est en moi, je suis en Christ et je suis avec le Christ. Avec, c'est sa compagnie. En moi, c'est que je suis le temple de l'Esprit. Et quand je suis en Christ, je suis protégé. C'est mon positionnement. Il n'y a pas meilleur positionnement que celui que Dieu nous a donné. Pour être lié ou attaché à Christ ou à Dieu, il faut d'abord être détaché de ce qui nous rend prisonniers, de ce qui nous rend captifs ou esclaves. Sans le Christ, les hommes sont captifs du monde, du pouvoir qu'exerce le diable. Par quel moyen? Par le moyen de notre vieille nature, qu'on appelle la chair. C'est là, par la chair, que le diable exerce une tyrannie sur nos vies. Au point qu'il nous met dans une sorte de prison dorée, il nous fait comprendre que cette prison-là, elle est meilleure. Il nous fait croire et apprécier notre prison. Et c'est ça le mensonge que le diable élabore depuis toujours. De lui ne sort jamais rien de la vérité. Et c'est de cela que Christ veut nous délivrer et nous détacher. Et nous retrouvons cette première affirmation dans le livre de Colossiens. Être détaché du monde, du diable, de la chair, pour être lié au ciel, à Christ et à son esprit. Et la Bible déclare, Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, je lis. Remercie avec joie Dieu, le Père. Il nous a rendus capables d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière, à qui? À ceux qui lui appartiennent. Le premier A. Si vous ne lui appartenez pas, ce verset n'est pas pour vous. Et je crois que nous tous qui sommes ici, nous lui appartenons. Il faut en avoir la pleine conscience. Il y a ça aussi. Dernière phrase. Il nous a en effet arrachés de la puissance de la nuit ou des ténèbres et il nous a fait asseoir dans le royaume de son Fils bien-aimé. Où est le royaume de Jésus? La Bible a dit que Jésus n'avait pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il acceptait de revêtir la forme d'un simple homme, d'un serviteur limité. Il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ressuscité, il l'a élevé, où? Au-dessus de toute autorité, toute domination, toute principauté, tout pouvoir dans les lieux célestes. Voilà le royaume de Jésus. Et là où se trouve Jésus, se trouve celui que Jésus a délivré. Vous êtes où? Nous sommes où? C'est dire que nous devons prendre les réalités du ciel pour regarder les choses de la terre. Quand les événements se passent, Père, comment tu regardes ça? Et lorsque nous chaussons les lunettes de Dieu et que nous regardons les événements, nous sommes dans une position. Quand Jésus dit ça, il veut nous délivrer de trois choses. De l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, la prière de ce matin va bien, qui impose des limites à nos vies. Dieu a posé des bornes et ils veulent toujours déplacer les bornes, les rebelles. Vous suivez mon regard. Dieu veut nous délivrer d'une mentalité étrangère, celle qui est opposée à l'esprit de Dieu. Cette mentalité qui nous pousse toujours à faire le mal. Cet esprit de rébellion, de convoitise, d'orgueil, de mensonge. Alors je veux rajouter un autre, en France, l'esprit de revendication. Ah, 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 ah. On revendique tout, mot droit. Mais la vie selon la croix n'est pas la vie selon le droit. Quand vous commencez à vivre mon droit, ou que je fais quelque chose de bien pour avoir quelque chose en retour, ça y est. Vous commencez à mettre votre vie sur un terrain sec parce que vous n'allez pas avoir ce que vous allez attendre. Et quand on ne reçoit pas ce à quoi on s'attend, on est frustré. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés à cause de ça. Ils vivent selon leurs sentiments. Ils sont susceptibles à mort. La susceptibilité, ça c'est l'œuvre par excellence du diable qui utilise la chair. Sortez de vos sentiments, sortez de la susceptibilité. Ça ne fait pas la grandeur du chrétien. Ah, je l'avais été au maximum susceptible, hein, moi, oh là là. Là, tu me marches sur les pieds, tu viens là-bas de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Je ne te vois pas, hein. Tu n'existes plus. Mais ça rend malade l'âme. Ça rend malade. C'est un esclavage. C'est un esclavage. Mais je dis, Seigneur, que faire? Il m'a dit, Jésus, regarde, on le traite de tous les noms. S'il est question de trouver les meilleures insultes au monde, c'est ces insultes-là qui s'appliquaient à Jésus. Mais tu vas voir qu'il va avoir un petit mot pour un tel, un petit mot pour un tel. Il ne se laisse jamais offenser. Il survole. Donc il faut vivre selon l'esprit de la croix. L'esprit de la croix n'est pas simplement mourir. Mourir au don et mourir à recevoir. Si je fais du bien sans pour autant attendre quelque chose en retour, je vis selon la croix. Et qu'on me complimente ou qu'on ne me complimente pas, qu'on me donne une suite, qu'on ne me donne pas, ce n'est pas mon affaire désormais. Je l'ai fait pour le Seigneur. Et c'est à lui que je m'attends. Essayez de vivre de cette manière, vous allez voir. Vous serez en bonne santé. Vous serez en bonne santé. Vous allez exercer une autorité même sur votre propre corps, votre esprit. Et c'est là où le Seigneur veut. On ne peut qu'atteindre ce niveau que quand on est lié à l'Esprit de Christ. On ne peut qu'atteindre ce niveau si on est lié en permanence à l'Esprit de Christ. Pas que de temps en temps. Pas que le dimanche. Parce que la plupart de nos vies, c'est à l'extérieur de l'Église. L'autre esprit, c'est l'esprit du monde. La sagesse humaine est indépendante de la sagesse de Dieu. La sagesse humaine rejette la personne et l'œuvre de Christ. Et sans Christ, nous ne pouvons rien. L'autre bénéfice, c'est que Jésus veut nous détacher pour nous attacher à lui, affranchi de l'esprit du monde, comme je le disais. Et je vais lire ce verset. Mais nous, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. Voyez-vous? Afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons. Nous avons chanté tout à l'heure l'esprit de Dieu. Qu'il vienne chez nous. Il est déjà là. Maintenant, je crois qu'il faut dire que Seigneur, donne-moi de te recevoir. C'est cette prière qu'il faut faire. Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit, envoie-nous l'Esprit est déjà là. Parfois on dit, Seigneur, Saint-Esprit descend, on donne un ordre au Saint-Esprit. Mais l'Esprit est déjà là. Je vais aller beaucoup plus loin. L'Esprit est déjà là même à la création. L'Esprit est déjà là même avant la venue de Jésus. Mais ce que Jésus veut nous montrer, quelle est la relation désormais à partir de lui, nous allons avoir avec l'Esprit. Parce qu'avant, l'esprit est à l'extérieur de l'être humain. Mais avec Jésus, l'esprit veut faire de nous son temple, son lieu de résidence. Il n'y a pas plus proche de nous que d'être en nous. Et nous devons le recevoir. On n'a pas besoin de formules. S'il y a des gens qui vivent une vie de l'esprit qui est de nature à nous rebuter, et ça je le crois, parce que le jour où j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, je dis à mon père, je dis que si c'est là le Saint-Esprit, moi je ne veux pas. Je vis des femmes qui planent là, qui culbutent, ils font voler des mouchards de tête. Ça rentre dans les bancs, ça sort de l'autre côté, ça renverse tout. Je dis que c'est ça l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il est calme. Quand il fait ça, c'est quand il y a des présences impures. Mais quand l'Esprit de Dieu vient à nous, il vient tranquillement. Un esprit de paix. Un esprit de sérénité. Je peux même aller beaucoup vous dire, un esprit élégant. Ah oui. L'esprit peut venir sur toi comme ça pour t'humilier devant tout le monde en te faisant tomber à gauche, à droite. Et si c'est des femmes qui tombaient? Et s'ils sont mal couvertes, comment ça va se passer? Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Lui-même, il prend la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. L'Esprit nous détache de nous-mêmes. Il nous détache de nous pour nous centrer vers le Christ. Et cela se fait à travers un cœur nouveau. Et c'est la promesse que Dieu a faite. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, rendu apte pour obéir à mes commandements. Et on dit que c'est les oiseaux de même nature qui se rassemblent. Lorsqu'on a l'esprit du Seigneur, on peut être attaché à lui. Mais si l'esprit de Dieu est un esprit saint et que l'esprit qui m'anime n'est pas un esprit de sainteté, il y a rupture. Alors je termine. Lorsque nous avons lu, il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a le positionnement là, en. Alors je crois que en signifie dedans. Voilà. Et le dedans se manifeste par opposition à dehors. Quand on venait chercher Jésus, que tes parents et tes frères, ils te cherchent, ils sont dehors. Jésus a dit que ceux qui sont dedans, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc être en Christ, c'est un positionnement. Christ nous a couverts et nous sommes en lui. Et quand on est en lui, nous avons toutes les bénédictions du monde. Dieu nous arrache de nos malédictions. On n'est plus redevable de nos lignées biologiques. Parce qu'il y en a d'autres là qui commencent à développer une doctrine là. Ah, malédiction générationnelle, malédiction machin. Quelle malédiction générationnelle? Quelle malédiction générationnelle? La Bible a dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3 verset 13. Jésus a été pendu au bois et en lui je vis. Où est la place de la malédiction? Potentiellement la malédiction a été ôtée, mais c'est à moi de l'appliquer à ma vie. Et c'est cette application à la vie de chacun que ça, où le bas blesse, ça coince. Par un seul nom, manque d'obéissance. Le Seigneur a déjà fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Il n'y a aucune condamnation pour qu'ils soient en Christ. Il n'est pas dit qu'on ne commettra pas des erreurs. Que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est exempt de toute erreur et que tout ce qu'il fera sera exact. Faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit là. Il n'y a aucune condamnation. On peut faire des erreurs, on peut revenir dessus. Et parfois le Seigneur le permet pour que nous puissions apprendre l'humilité. On peut passer à côté de la plaque. Et l'Esprit nous interpelle à revenir. Et c'est ça, la vie de l'Esprit. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Et il veut nous interpeller aujourd'hui à faire l'ajustement qui s'impose pour que sa grâce inonde notre vie. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu bénédiction pour nous. Et par lui, nous recevons la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Voilà. Dieu nous a donné l'esprit. Et la plus grande bénédiction que nous sommes appelés à avoir, je peux vous avouer, ce n'est pas les comptes en banque. Souvent, nous, quand on dit que la grande bénédiction, c'est l'argent. Mais la grande bénédiction, c'est le monde entier que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit. On ne peut pas l'acheter. Quand Simon le magicien a vu les disciples en train de œuvrer avec le Saint-Esprit, il dit, ouh, je vais donner de l'argent pour en avoir une part. La merveilleuse chose que Dieu nous a donné de connaître, c'est son esprit. Soyez-en jaloux. Mais si vous estimez que vous ne l'avez pas, allez devant le Seigneur. Dieu a dit que quel est le bon père à qui on lui demande du pain et il lui donnera des cailloux à son enfant? Quel est le bon père à qui l'enfant demande des œufs, il va lui donner des scorpions? Mais si aussi méchantes que nous sommes, nous, pères, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit lorsque vous me demandez? Ok? Demandez-lui. Et ça va venir comment? Les frigos, les chaises, tout dans la maison va voltiger parce que le Saint-Esprit est là? Mais non! Il vient tranquillement. Il va commencer à changer notre esprit. Il va télécharger de manière inconsciente les pensées de Dieu dans notre pensée. Et dans une situation, nous allons agir en prenant une décision sans pour autant être conscient, mais c'est la bonne. Voilà. Le Saint-Esprit vient, il télécharge les qualités de Dieu. Voilà. Jour après jour, ça ne se fait pas en une seule fois. Ça vient de manière progressive. Je ne veux pas dire que Dieu vient par morceaux dans notre vie. Parce que parfois, c'est comme ça que les gens présentaient le Saint-Esprit. C'est comme si tu as Dieu le Père aujourd'hui, demain tu as Dieu le Saint-Esprit, le Jésus, et après tu as le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu vient en nous par morceaux. Non. Quand on reçoit Dieu, reçois tout. La question, est-ce que je laisse la place à Dieu d'agir dans ma vie, oui ou non? Voilà toute la question. Amen. Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est par ta parole, Seigneur, tu as créé toutes choses. Et c'est par cette parole, Seigneur, Dieu, tu corriges ce qui est tordu. Tu redonnes vie à ce qui est mort. Et tu éclaires nos routes et tu nous montres ton chemin. Père, nous te recommandons nos peurs qui nous rendent esclaves, afin que tu nous donnes ta paix intérieure. Nous invoquons le Saint-Esprit afin qu'il nous guide avec sagesse dans notre vie de tous les jours. Détache notre esprit de tout ce que nous tolérions ou d'une tolérance coupable. Que le pouvoir du péché soit entièrement détruit de notre vie. Nous avons encore le réflexe de la chair. Nous avons besoin d'en être libérés. Ouvre nos yeux intérieurs sur ce que toi tu condamnes, afin que nous condamnions, nous aussi. Purifie tout notre être, esprit, âme et corps. Merci pour le sang de Jésus qui purifie toutes choses. Et accorde-lui une mentalité qui est celle de Christ. C'est à cultiver, mais avec ton aide, nous y arriverons. Merci pour cette transformation intérieure que tu opères à chacun d'entre nous. Donne-nous d'être plus qu'à Christ, aujourd'hui qu'hier, et que nous soyons encore meilleurs demain qu'aujourd'hui. Et ainsi, jour après jour, tu nous conduis vers la glorification. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen.